Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé, les cours du Collège de France. Ce pauvre Lucius s'amusait jadis à me confectionner des plats rares. Ses pâtés de faisan, avec leur savant dosage de jambon et d'épices, témoignaient d'un art aussi exact que celui du musicien et du peintre. Je regrettais pourtant la chair nette du bel oiseau. La graisse y entendait mieux. Son vin résiné, son pain clouté de sésame, ses poissons retournés sur le grill au bord de la mer, noircis inégalement par le feu et assaisonnés çà et là du craquement d'un grain de sable, contentaient purement l'appétit, sans entourer de trop de complications la plus simple de nos joies. Mémoire d'Adrien, Marguerite Yourcenar, Collection Folio. Denis Knopfler est professeur au Collège de France depuis 2003. Titulaire de la chaire d'histoire et épigraphie des cités grecques, il prononce ici sa dernière année de cours avant de partir à la retraite. Cours magnifique, consacré à l'empereur Adrien, qui fut, comme on sait, tellement attaché à la culture grecque qu'il voulut la répandre dans le monde. Hier, Denis Knopfler a expliqué pourquoi un spécialiste de l'épigraphie hellénistique comme lui pouvait se pencher sur les relations entre l'empereur Adrien et les cités grecques. « Il n'y a pas, disait-il, de vraie rupture entre l'époque hellénistique et l'époque impériale. La période qui va du IIe siècle au début du IIIe siècle fut celle d'une apogée pour les cités grecques. » Le développement urbain fut considérable et tous les visiteurs d'Athènes ne purent que le constater. Denis Knopfler a d'autres raisons plus personnelles et scientifiques de s'intéresser à la figure d'Adrien. Pausanias, auquel il avait consacré plusieurs cours admirables, que vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France, était un admirateur d'Adrien. Et de plus, la longue série des inscriptions grecques, dont la collection est rassemblée depuis longtemps, n'a cessé de s'accroître depuis un demi-siècle. Évidemment, Denis Knopfler ne pouvait contourner cette œuvre littéraire majeure du XXe siècle, parue en 1951, que sont les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Denis Knopfler s'attache à réparer les graves injustices dont l'écrivain fut victime de la part des historiens. En effet, ce roman est fort bien documenté sur le plan scientifique et l'on peut s'appuyer sur le savoir de Marguerite Yourcenar pour prendre la mesure de ce que nous savons aujourd'hui sur l'empereur Adrien. Écoutez.
5 ans avant son accession à l'Empire, alors qu'il poursuivait à Rome et dans les provinces une carrière sénatoriale somme toute assez classique, Adrien fut archonte éponyme d'Athènes. Divers textes et documents attestent cette désignation aux alentours de 112 après Jésus-Christ, mais c'est l'inscription trouvée dès 1862 au théâtre de Dionysos à Athènes qui présente le plus d'intérêt pour la biographie du futur empereur. D'une part, en effet, comme l'a rappelé Madame Mireille Corbier, la statue dut être élevée à l'époque même où Adrien assumait cette fonction honorifique, même si tout invite à penser que le socle fut ensuite déplacé après 117, peut-être en 124-125 seulement, à l'emplacement très en vue qu'il occupe au bas de la kerkis médiane du théâtre, dans une position correspondant à la place centrale qui fut attribuée plus tard à la tribu Adrianis, comme autrefois à la tribu Ptolémaïs, dans le système des 12 plus une fulaille d'Attique. D'autre part, et surtout, notre collègue a montré combien le cursus honorum, rédigé en latin, était précieux pour fixer les principales étapes de la carrière du sénateur Adrien avant 112. Si je juge néanmoins utile d'y revenir, c'est pour examiner quel usage Marguerite Yourcenar a fait de ce document en le combinant avec d'autres données, celles de l'histoire auguste en particulier. La biographie autorisée, si l'on peut dire, celle qui passait pour être l'œuvre de Phlégon de Trales, devait contenir son lot d'informations sur la période allant de la naissance d'Adrien le 24 janvier 76 à Rome, sous Vespasien, et à son entrée dans la vie publique durant les dernières années de Domitien, à partir de l'an 94 sans doute. Ce qui nous est parvenu se réduit toutefois à peu de choses. Du moins, sait-on que sa famille italienne, mais non romaine à proprement parler, la gens Aelia, qui appartenait à l'ordre sénatorial, sans bénéficier du prestige des familles ayant accédé au consulat, avait pour origine légale, depuis plusieurs générations, le municipe d'Italica, patrie aussi de Trajan, dans la province de Bétique, l'actuelle Andalousie. Les noms de ses ascendants directs sont connus. À partir de ces pauvres données, Marguerite Yourcenar a brossé un tableau sobre mais évocateur de la vie provinciale, montrant le jeune Adrien d'abord aux côtés de son père, Aelius Adrianus Affaire, l'Africain, un notable accablé de vertu, comme l'écrit l'auteur des mémoires, qui mourut prématurément, tandis que son aïeul paternel, dénommé Marilinus, aussi proche des réalités de la vie paysanne que sensible au mystère des ciels étoilés, aurait enseigné à l'enfant les principes de l'agriculture et les rudiments de l'astrologie. En fait, Adrien paraît n'avoir passé à Italica que peu de temps, aux alentours de sa 15e année. Le seul document qui se rapporte indirectement à son enfance est l'épitaphe de la villa de Tibur pour Germana, nourrice du futur empereur, Divi Adriani Nutrix, un personnage non connu de Marguerite Yourcenar. L'exploration archéologique du site d'Italica permet par ailleurs de reconstituer, en gros, le cadre urbain de la patria d'Adrien. Mais il faut prendre garde que la ville ainsi mise au jour est pour une large part celle qui résulte du changement de statut octroyé à ce municipe par Adrien lui-même après 122. Il apparaît du moins que, dès avant cette époque, les habitants d'Italica jouissaient d'un certain confort matériel et que la culture artistique était sans doute d'un niveau plus élevé que ne le laisse entendre l'auteur des mémoires. À l'en croire, en effet, il n'y aurait pas eu alors, je cite, « une seule bonne statue grecque dans toute la péninsule », page 38. Or, parmi les œuvres d'art provenant d'Italica au musée de Séville, et sans même parler d'un célèbre portrait en marbre de l'empereur, mais datant seulement des alentours de 130, se trouve notamment une statue d'Aphrodite, non dépourvue de qualité artistique, quoique acéphale et manchotte. Mais rien n'assure que l'adolescent Adrien ait pu la contempler et se laisser éventuellement émouvoir par ses formes plus que gracieuses. En tout cas, c'est ailleurs qu'il s'initia aux belles lettres. Non sans raison, Marguerite Yourcenar a situé à Rome, chez le grammairien Terentius Scaurus, la formation secondaire, dirait-on aujourd'hui, d'Adrien, puisque l'on apprend incidemment, dans une des vies de l'histoire auguste, la vie de Verus, 2-5, que ce Scaurus, qui exerçait son métier dans la capitale, fut le grammaticus Adriani. L'auteur des mémoires se montre plein de gratitude à l'égard de ce maître, exigeant jusqu'à la cruauté, mais incontestablement savant. C'est à lui qu'il dit être redevable de son goût pour la poésie latine et de sa découverte de l'alphabet grec. Ce qui n'est pas un mince compliment dans la bouche de l'empereur Philhellène. Mais pour parfaire sa connaissance de la langue et de la littérature grecque, il aurait été envoyé à Athènes, et cela en accord avec ses deux tuteurs, Trajan, son parent, par alliance, et Acilius Attianus, dont il sera plus tard question. Âgé alors de 16 ans, en l'an 92, par conséquent, Adrien y aurait rencontré le rhéteur Isée, c'est-à-dire Isaios, personnage qui jouissait d'une certaine réputation, puisqu'en font mention aussi bien la correspondance privée de Pline le Jeune que les vies des sophistes du grec Philostrate. C'est ce qu'avait bien vu Pierre Grimal dans un article de 1954 sur ce personnage. Mais il a échappé au célèbre latiniste une chose que Marguerite Yourcenar, elle, sut repérer dans Athènes sous Adrien de l'historien belge Paul Grindor, ouvrage paru en 1934 et qu'elle pratiqua avec prédilection. Car cet excellent épigraphiste y relevait d'entrée de jeu, je cite, que les biographes d'Adrien ont oublié de noter que l'un de ses maîtres fut le sophiste athénien Isée. De fait, une belle inscription d'Éleusis, qui est l'épitaphe d'une descendante de ce rhéteur, fait mention d'Isaios, qui enseigna l'art des muses à l'irréprochable souverain Adrien Basileos Amumonos Adrianoio. Une telle information ne pouvait donc manquer d'être exploitée. Mais l'auteur des mémoires aurait pu se contenter d'admettre, avec d'autres, que l'Athénien Isée enseignait tout simplement à Rome. Il lui a toutefois paru plus piquant de l'imaginer à Athènes, entre le lycée et l'académie. Hypothèse rendue plausible par le fait que l'épitome De Caesaribus, œuvre anonyme du IVe siècle, présente Adrien comme un homme ayant adopté des Athéniens, leur goût pour les études et jusqu'à leur usage même. Athenientium studia moresque, en pratiquant donc toutes les disciplines artistiques. Le seul problème, c'est que l'époque de ce séjour à Athènes n'est pas connue. Faut-il alors nécessairement le placer avant même que ne commence pour le jeune Adrien la longue suite des fonctions exigées par le cursus honorum, donc sous Domitien encore? C'est le parti qu'a pris Yourcenar, tout en supposant que le retour temporaire du jeune homme à Italica en 91 correspondit à une première année de service légionnaire dans la province d'Espagne citérieure, chose non attestée et en fait peu vraisemblable, mais qui permettait à l'auteur de faire du voyage en Grèce en 92 une espèce de congé d'études avant l'entrée dans la vie sérieuse. En réalité, il vaut mieux, je pense, retarder ce séjour pour le faire coïncider tout simplement vers 112 avec le voyage qu'implique la désignation d'Adrien comme archonte. Car à l'occasion de cette magistrature, le futur empereur aurait fort bien pu fréquenter les meilleurs esprits d'Athènes, de même que rendre visite encore à d'autres philosophes célèbres, ainsi à Chéroné, l'aimable Plutarque, qui ne mourra que vers 125, ou le plus austère Épictète, stoïcien, qui s'était retiré à Nicopolis. On peut donc faire l'économie d'un premier séjour athénien 20 ans plus tôt, sans pour autant remettre en question la précocité des contacts d'Adrien avec d'éminents représentants de la culture grecque. Revenons maintenant au volet latin de l'inscription exposée au théâtre de Dionysos. Ce résumé lapidaire, dans tous les sens du terme, de la carrière politique d'Adrien a évidemment été utilisé à fond par Marguerite Yourcenar, qui a su donner vie et couleur à une simple énumération de fonctions. On se souvient que, comme souvent dans ce type de document, la liste est dressée selon l'ordre chronologique inverse. La magistrature la plus récente, et donc en principe la plus élevée, venant en tête, il s'agit en l'occurrence du premier consulat en l'an 108. Mais c'est par une magistrature judiciaire bien modeste que le jeune Adrien avait entamé le cursus vigintivirale, virale, comme on dit, en étant recruté dans le collège des 10 juges chargés de trancher les affaires d'héritage, le decemvir slitibus judicandis, probablement en 94 sous Domitien. Quand déjà, par ses succès militaires, Trajan tournait au grand homme, selon l'expression prêtée à l'auteur des mémoires. Simultanément, ou à peine plus tard, ce sont des fonctions en rapport avec d'antiques rituels célébrés dans le Latium ou à Rome même qu'il assumait de manière ponctuelle. Mais dès l'année 95, commence pour lui la carrière imposée à tout jeune Romain de son rang, avec une orientation militaire marquée. Ce dur apprentissage du métier des armes, Yourcenar ne l'a nullement escamoté, car à défaut d'avoir elle-même l'expérience des champs de bataille, elle avait beaucoup lu, réfléchi sur la guerre en général, sans parler de sa connaissance personnelle de maints pays d'Europe et d'Orient traversés il y a 19 siècles par le jeune officier romain. Elle s'est montrée capable, par exemple, d'exprimer ce que purent être pour cet homme de la Méditerranée, accoutumé à un sol sec et rocheux, écrit-il, une plaine qui ne s'arrête qu'au ciel, ce premier contact avec les provinces danubiennes et la découverte du grand fleuve continental. C'est, on s'en souvient, que le jeune tribun, ou commandant en second sous les ordres du légat, avait servi d'abord en diverses légions stationnées sur la frontière septentrionale de l'Empire, d'abord en Pannonie inférieure, au camp de la 2e légion adjutrix, sur le point d'être installée à Aquincum, Budapest. Puis, à l'automne 96, il a alors 20 ans, il passa en Mésie inférieure, pas loin de l'embouchure du Danube, à Euskus, puis Troesmis, au camp de la 5e légion macédonica. On ne saurait évidemment garantir que le soir de son arrivée au camp, le Danube ait été une immense route de glace rouge puis de glace bleue, comme on le lit dans les mémoires. Mais peu importe, la page est belle, comme l'est aussi celle où l'officier Adrien se montre habité par la tentation d'aller au-delà du fleuve pour s'enfoncer seul jusqu'aux confins de la terre, plus loin que le Borysthène, au-delà du Dniepr. La paix fragile qui règne encore sur cette frontière autorisait peut-être de tels rêves. Mais depuis son arrivée à Euskos, aux confins du monde barbare, les choses à Rome ont pris un autre tour. Domitien a été assassiné et l'on apprend qu'il a été remplacé par le vieux sénateur Nerva, dont Trajan, soldat dans l'âme, a presque aussitôt été désigné comme successeur en titre. Du fait de sa parenté avec lui, Adrien se voit confier la très honorifique mission d'aller porter les félicitations des armées du Danube au futur empereur qui commande celle du Rhin. Puis, en 97, il est muté par Trajan dans une légion rhénane, la 22e Primigenia, stationnée à Mogontiacum, Mayence. Tandis que Trajan, lui, se trouve placé à la tête de la Germanie inférieure dans la Colonia Agrippinensis, qui est Cologne. C'est donc là qu'en janvier 98, le jeune Adrien ira à toute allure annoncer à Trajan, au lendemain de la mort de Nerva, son élévation à la dignité impériale. Mais il faut rappeler aussi, car cet épisode romanesque rapporté par l'histoire Auguste me paraît porter, malgré les doutes de Madame Corbier, le sceau de l'authenticité, que quelqu'un essaya d'empêcher Adrien de parvenir à sa destination en allant jusqu'à faire saboter le véhicule qui l'emmenait sur les routes enneigées. Or, celui qui faisait ainsi obstacle à son avance, en même temps qu'à son avancement, n'était autre que son beau-frère, mari de sa sœur Pauline, et gouverneur de la Germanie supérieure, Lucius Julius Ursus Severianus, Severien, d'origine hispanique lui aussi, qui restera jusqu'à sa mort en 137 un parent un peu encombrant pour Adrien. Dans la carrière de ce dernier, l'avènement de Trajan marque à coup sûr un tournant majeur. Certes, Adrien n'est pas, à la différence de l'auteur bien connu du panégyrique de Trajan, son aîné Pline le Jeune, un turiféraire de l'Optimus Princeps. En tout cas, Marguerite Yourcenar a tenu à souligner son indépendance d'esprit, ce qui est une hypothèse vraisemblable. Mais, à l'évidence, il s'est rapproché du pouvoir. En 101, il entre au Sénat comme quaestor imperatoris Traiani, questeur, candidat de l'empereur, ainsi que, ne manque pas de l'indiquer, l'inscription d'Athènes. Et c'est cette fonction qui lui vaut l'honneur de rédiger, voire de prononcer lui-même à l'occasion les discours du prince devant le Sénat. Cela, il est vrai, lui aurait valu également, au témoignage de l'histoire Auguste encore, d'essuyer quelques quolibets sur son prétendu accent hispanique. Mais à la réflexion, il est bien douteux que ses rares séjours à Italica l'aient à ce point marqué. Peut-être Adrien avait-il tout simplement adopté un langage un peu trop militaire. De ce manque relatif d'urbanité, en tout cas, il sut très vite se corriger par l'exercice. C'est vers ce moment aussi qu'Adrien aurait pris, selon Marguerite Yourcenar, une décision qui ne fut pas de mince conséquence sur le plan esthétique et social. Une cicatrice au menton, dit l'auteur des mémoires, en s'inspirant de l'histoire Auguste, 26.1, me donna l'occasion de porter la courte barbe des philosophes grecs. Ce faisant, il lançait, sans le vouloir, une mode qui devait se généraliser assez vite dans tout l'Empire et pour longtemps, puisque la barbe apparaît comme l'un des traits spécifiques de la période antonine et sévérienne. Mais cette innovation a toutes les chances d'être en réalité un peu plus tardive et de ne dater que du séjour athénien de l'an 112, ou même seulement de l'époque de son avènement, quand Adrien aurait pu vouloir se démarquer sur ce point aussi du soldat au visage glabre que Trajan fut jusqu'à la fin. En tout cas, le nouveau prince est représenté barbu dès 117, qu'il s'agisse des portraits sculptés les plus anciens ou des plus anciennes effigies monétaires. Ce qui autorise en effet à douter qu'un tel changement, qui n'avait pas échappé aux anciens, se soit produit plus tôt, c'est que le jeune sénateur devait en principe se conformer aux usages de la cour, d'autant plus que vers 103-104, au plus tard, l'impératrice Plotine, dont il y aura à reparler, parvint à obtenir de Trajan qu'il voulût bien consentir au mariage de sa petite nièce Vibia Sabina avec le jeune Adrien. Pas un mariage d'amour, certes, même si, à en croire l'auteur des mémoires, Sabine, à cet âge, n'était pas tout à fait sans charme. Page 65. Cette union le rapprochait encore davantage de l'empereur, aux côtés duquel Adrien se trouva bien souvent dans ces années-là. L'inscription d'Athènes confirme, on l'a vu, qu'avec le rang de questeur, il avait déjà suivi Trajan lors de l'expédition de 101-102 contre les Daces, faisant partie de son conseil et comes expeditionis d'Aquique. Revenu à Rome, il fut élu fin 104 pour entrer l'année suivante dans le collège des tribuns de la plèbe, vieille magistrature républicaine, certes, mais un peu amoindrie, depuis qu'Auguste avait privé les tribuns de leur droit de veto pour faire de la tribunicia potestas une des composantes essentielles du pouvoir impérial. Mais la paix conclue en 102 avec Décébal, le roi des Daces, n'était pas destinée à durer bien longtemps. En 105 déjà, Trajan repartait sur la frontière du Danube pour conduire un nouveau et plus radical bellum dacicum. Il confiait alors à son petit cousin, âgé de 30 ans, le commandement de la première légion Minervia, déplacée depuis Bonne sur le front d'Ace. Adrien faisait ainsi une nouvelle fois partie de l'état-major de l'armée du Danube quand, en 106, au terme d'une très rude campagne qui faillit coûter la vie à l'empereur lui-même, la capitale du royaume, de ses Daces, Sarmizet, Getouza, fut prise et incendiée, tandis que Décébal se suicidait pour ne pas tomber vivant aux mains des Romains. Marguerite Yourcenar a évoqué cette issue dramatique en suivant le récit de l'historien Dion Cassius au livre 68-14, sans décrire toutefois le suicide du roi lui-même, mais en faisant d'Adrien le témoin de l'épisode qui suivit. « J'entrai à la suite de l'empereur dans la chambre souterraine où les conseillers du roi Décébal venaient de se suicider au cours d'un dernier banquet. » Page 62. On est cependant mieux informé aujourd'hui sur les circonstances de la mort du roi. Trouvé naguère en Macédoine, près de la colonie romaine de Philippe, une remarquable épitaphe latine prouve en effet que ni Trajan ni Adrien ne furent sur les lieux mêmes de l'immolation des chefs d'Ace. Ce cavalier légionnaire, Orpère, qui avait commencé sa carrière sous Domitien et ne quitta le service qu'après la guerre contre les Parthes, pouvait en effet se prévaloir en tant que chef des exploratores à cheval d'un exploit peu banal, impossible à mettre en doute, celui d'avoir capturé Décébal et d'avoir apporté sa tête à l'empereur au camp de Ranistorum, quod cepisset Decebalum et caput eius pertulisset Ranistoro, comme le dit et le représente la stèle à relief. Ce document vient donc éclairer deux scènes de la chronique officielle qu'est la frise historiée de la colonne Trajane, qui montre d'une part le roi déjà à terre, assailli par un escadron de cavaliers, et d'autre part la présentation sur une espèce de pavois de sa tête aux soldats par deux personnages, Trajan très certainement, et le captor Décébali en personne. Si Marguerite Yourcenar avait pu connaître la chose à temps, sans doute eût-elle modifié un peu cette page des mémoires. Mais sa conviction que la guerre dacique fut bel et bien sans merci n'aurait pu qu'en sortir renforcée. L'auteur nous dépeint cependant un Adrien approuvant encore à cette date la politique impérialiste de Trajan, jugée nécessaire sur la frontière danubienne. L'inscription d'Athènes fait du reste mention des deux décorations que lui valut sa conduite en Dacie. Selon Yourcenar, toutefois, les sentiments du futur empereur commencent à changer peu après, au lendemain, pour ainsi dire, du triomphe dacique. Dès l'automne 106, en effet, Adrien est élu praetor, d'où le éodème tempore de l'inscription d'Athènes, magistrature qui lui ouvre la plupart des hautes fonctions militaires et civiles. Trajan l'envoie alors gouverner en tant que legatus caesaris, la province prétorienne de Pannonie inférieure, où il doit faire face, sur le Danube, au peuple des Yaziges, Pannonie, associé, ce peuple, semble-t-il, à celui des Suèves. Cette nouvelle entreprise n'exigeait pas seulement de la part du légat une reprise en main de l'armée, mais aussi la répression de certains abus administratifs. Au camp légionnaire d'Aquincum, Adrien put compter sur l'appui d'un centurion déjà expérimenté, Quintus Marcius Turbo, qui devait accéder rapidement, on le verra, au sommet de la carrière équestre à travers diverses préfectures. Il n'est pas impossible que dès alors Adrien ait pris conscience des limites de l'expansion romaine au-delà des grands fleuves. Car, comme l'écrit l'auteur des Mémoires, cette guerre dura 11 mois et fut atroce, page 73. D'où son refus avéré, 10 ans plus tard, d'entériner la politique expansionniste de Trajan en Orient. Reste à se demander de quoi fut faite pour lui cette décennie qui nous sépare encore de son avènement en 117. Les choses, au début, paraissent assez claires, puisqu'il est établi que le consulat d'Adrien, la dernière en date des grandes magistratures dont face à l'inscription d'Athènes, tombe en 108, première année où il pouvait d'ailleurs légalement y prétendre. Les historiens ont vu dans cette élection la juste reconnaissance des mérites reconnus par l'empereur que l'officier s'était acquis en combattant avec tant d'éclat sur le front. Mais la récompense pouvait, aux yeux de l'intéressé, paraître un peu maigre, puisqu'Adrien n'était pas désigné comme consul ordinaire, avec la prérogative de donner son nom à l'année en compagnie de l'autre consul, élu pour la même période, mais en tant que consul suffecte seulement pour une partie de l'année. De fait, les deux consuls ordinaires de l'année précédente, en 107, Licinius Sura et Sosius Senecio, l'un et l'autre plus âgés qu'Adrien, il est vrai, avaient également combattu dans la seconde guerre dacique et avaient reçu de la part de Trajan les ornamenta triumphalia, un honneur dont le petit cousin de l'empereur ne fut apparemment pas jugé tout à fait digne. Le cas de ces deux hommes est d'autant plus intéressant qu'ils appartiennent au cercle des partisans d'Adrien. Aussi Marguerite Yourcenar leur a-t-elle fait une petite place dans les mémoires, en mettant notamment dans la bouche d'Adrien le jugement que voici. Licinius Sura mourut sur ses entrefaites. C'était le plus libéral des conseillers du prince. Sa mort fut pour nous une bataille perdue. Il avait toujours fait preuve avec moi d'une sollicitude paternelle, page 79. Un personnage d'envergure, assurément, que ce Romain d'Hispanie, dont l'action fut positive dans la mesure où il aurait freiné Trajan dans ses projets orientaux, partageant ainsi la vie d'Adrien. Le portrait a pour fondement historiographique un passage de l'Histoire Auguste 3-10, selon laquelle Adrien, l'année de son consulat, donc en 108, a pris de la bouche de Licinius Sura la décision de Trajan de l'adopter, ce qui pourrait faire qu'il cessa dès lors, dit l'Histoire Auguste, d'être méprisé par les amis de Trajan et resserra bientôt son intimité avec l'empereur, malgré la mort de Sura. Mais si ce personnage a été jugé très important, c'est aussi, il faut le noter, parce que les épigraphistes ont vu en lui le magistrat fort titré d'une inscription honorifique connue depuis longtemps à Rome même. Ce document, dont la partie haute est perdue, atteste une participation à la guerre dacique et de très grands honneurs, notamment une statue publique, chose signalée par ailleurs chez Dion Cassius au livre 68-15. Or, des doutes ont été émis sur cette attribution traditionnelle par le grand spécialiste de l'aristocratie impériale qu'a été Sir Ronald Syme, puis par Christopher Jones dans un article de 1970. Selon ce dernier, l'inconnu honoré par l'inscription acéphale ne serait pas Licinius Sura, mais l'autre consul ordinaire de l'année 107, à savoir Quintus Sosius Senecio, dont le cursus conviendrait effectivement encore mieux à celui de l'inscription de Rome. Car ce personnage, lui aussi, était une personnalité éminente qui dut être en contact, et d'autant plus proche d'Adrien, qu'il avait des liens étroits avec le monde grec. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Senecio était l'un des plus proches amis du philosophe Plutarque, ce qui devait a priori le rendre sympathique au futur empereur Philhellène. Il est amusant de constater que Marguerite Yourcenar a eu l'idée de faire d'un traité de Plutarque publié vers 90 le seul ouvrage que le jeune Adrien emporte en quittant Rome pour son premier poste dans les provinces danubiennes. 10 ans plus tard, quand Sosius Senecio eut reçu les très grands honneurs qu'atteste l'inscription acéphale, si cette inscription est bien pour lui, Adrien avait plus que jamais besoin de l'appui d'hommes tels que lui au sein du conseil du prince. De fait, on lit dans l'Histoire Auguste qu'à cette époque-là, précisément, il jouissait de l'amitié de Sosius, donc notre Senecio, de Papus et de Platorius Nepos, autres personnages connus, on le verra, au sein de l'ordre sénatorial, ex-sénatorio ordiné. Mais selon toute apparence, Adrien ne put bénéficier très longtemps de cette amitié, car Senecio, de 15 ans au moins son aîné, dut sans doute disparaître lui aussi dès avant l'expédition contre les Parthes, sinon vers 110 déjà. Que devient alors Adrien, qui semble relativement isolé? Il n'obtient apparemment aucune des provinces consulaires, qu'elle relève ou non directement de l'empereur, car son nom ne figure pas dans les fastes, comme on dit, de l'Afrique proconsulaire, de l'Espagne citérieure, de la Bretagne, des deux Germanies, de la Pannonie supérieure, et encore moins de l'Asie. Il aurait pu aussi être envoyé comme légat impérial de la province de Bithynie-Pont, mais c'est à Pline le Jeune, on le sait, que Trajan confia ce mandat singulier. Le séjour d'Adrien à Athènes en 112, dont la réalité ne saurait, à mon avis, être mise en doute, quelle qu'ait été sa durée exacte, qu'on ignore, ressemble ainsi davantage à un exil volontaire, loin de la cour impériale, qu'à une mission officielle, même si le goût déjà marqué d'Adrien pour la culture grecque a joué de tout son poids dans le choix même du lieu de cette retraite. Car si Adrien avait été envoyé en Grèce au titre de légat pour préparer l'expédition partie, comme on aurait pu le supposer, l'inscription d'Athènes aurait dû mentionner cette nouvelle étape du cursus. Marguerite Yourcenar a bien senti le caractère étrange de l'épisode athénien. J'avais pris une décision qui me fit à jamais considérer comme frivole par mes ennemis, et qui était en partie calculée pour le faire et pour parer ainsi à toute attaque. J'étais allé passer quelques mois en Grèce, fait-elle dire à l'empereur mémorialiste, page 80. Des ennemis, ou du moins des rivaux, Adrien en avait certainement un bon nombre dans l'entourage de Trajan et au Sénat. Ainsi, son beau-frère, Servianus, et d'autres qui tomberont sous le coup de sa vindicte en 117-118. Par exemple, Aulus Cornelius Palma, qui avait fait en 106 campagne dans le pays des Nabatéens de Pétra, à la suite de quoi ce royaume, pliant jusque-là, constitua une nouvelle province, celle d'Arabie, dont Bostra devint le chef-lieu. Il en allait de même du sénateur d'origine maure, Lusius Quietus. Peut-être y a-t-il quelque excès à voir en eux les meneurs d'un parti de la guerre qui aurait incité Trajan à reprendre plutôt le chemin de l'Orient. Mais le fait est que, à peine achevé en mai 113, la construction de la gigantesque colonne commémorant sur le nouveau forum la conquête de la Dacie, une grande expédition est entreprise contre les Parthes. Ceux qui revenaient de la guerre s'en retournaient à la guerre, comme le constate l'auteur des mémoires. Dès l'automne de cette année-là, l'empereur s'embarquait pour la Grèce sur le vaisseau amiral de la flotte de Mycène, en compagnie de l'impératrice Plotine et de toute la cour. À Athènes, on ne fit qu'une brève halte, le temps cependant de recevoir une députation parthe dont les demandes ne furent pas entendues. Un long voyage amena ensuite le prince jusqu'à Antioche de Syrie, où allaient se concentrer les diverses unités régionales du corps expéditionnaire. Adrien, à cette date, avait nécessairement quitté l'Achaïe pour s'associer, bon gré mal gré, aux préparatifs de la guerre. On ne saurait mettre en doute qu'il y participa dès le début, puisque la chose est expressément affirmée par l'histoire Auguste, qui nous apprend que c'est grâce à la faveur de Plotine qu'il fut désigné comme légat au temps de l'expédition contre les Parthes. 4.1. Expeditionis Parthicae tempore. Mais légat, pourquoi faire? Le terme de legatus caesaris pouvait convenir pour le gouverneur d'une province impériale telle que la Syrie, placée sous l'autorité directe du prince. De fait, c'est bien cette province qu'Adrien gouvernera au moment où Trajan, en 117, quittera le théâtre des opérations. Et il est manifeste que Marguerite Yourcenar a opté pour cette solution, puisque, sans l'indiquer de date précise, elle fait dire à Adrien ceci. « J'occupais depuis une année mon poste de gouverneur en Syrie lorsque Trajan me rejoignit à Antioche. Il venait surveiller les préparatifs de l'expédition d'Arménie. » Page 83. Voilà qui nous met clairement à la fin de 113, quand le prince et la cour viennent hiverner sur l'Oronte. Donc, pendant 5 ans, de 112 à la mort de Trajan en 117, Adrien aurait gouverné la Syrie. Ce choix avait l'avantage pour l'écrivain de donner à Adrien une position très claire, en même temps qu'un rôle capital, dès la fin de son séjour athénien et pendant toute la durée de la guerre, puisque la Syrie était nécessairement le point central du dispositif militaire de Trajan, engagé dans des opérations aussi bien au nord qu'à l'est d'Antioche. Mais le terme de legatus, presbytes en grec, s'il comporte l'idée d'une délégation de pouvoir de la part de l'empereur, seul détenteur de l'imperium, n'implique pas que ce lieutenant soit à la tête d'une province, surtout en période de guerre, car il est bien des exemples de legati au sein de l'état-major du prince, en campagne, ainsi pendant le bellum dacicum. De fait, il semble rigoureusement impossible que la nomination d'Adrien à ce poste de confiance soit intervenue dès 112 ou 113, puisque entre 114 et 116, voire encore au début 117, la Syrie fut gouvernée en réalité par quelqu'un d'autre, à savoir Gaius Julius Quadratus Bassus, un éminent sénateur de la cité de Pergame dans la province d'Asie. Chose remarquable, Yourcenar n'a pas ignoré l'existence de ce personnage, mais elle ne l'a fait intervenir que plus tard et dans un autre poste à la tête de la Dacie. L'admirable Julius Bassus, dit-on dans les mémoires, premier gouverneur de cette province, donc la Dacie, nouvellement organisée, était mort à la peine, tué par cette tâche sans gloire qui consiste à pacifier inlassablement un pays cru soumis. Je lui fis faire à Rome des funérailles triomphales, page 105. D'où cette information provient-elle donc? Eh bien, d'une grande inscription de l'Asclépion de Pergame, objet de plusieurs études depuis le début du XXe siècle et réédité en 1959 avec un commentaire exhaustif par Christian Habicht dans son corpus des inscriptions du grand sanctuaire extra-muros, c'est le numéro 21 de cette collection. Cette base de statue porte en effet sur sa face antérieure une inscription qui déroule devant nos yeux toute la riche carrière militaire du personnage, en particulier son participation à la première guerre dacique en 101 comme commandant de rang prétorien, puis son engagement dans la seconde, en 106, avec le rang d'un consulaire, car il avait été consul en 105. Ses légations dans plusieurs provinces d'importance croissante, d'abord celle de Judée, ensuite celle qui, au cœur de l'Asie mineure, réunissait encore la Galatie, la Cappadoce, la petite Arménie, la Paphlagonie, l'Isaurie et la Phrygie, puis la province de Syrie, Phénicie, Commagène, qui nous intéresse spécialement ici, enfin celle toute nouvelle de Dacie, au moment même de la gravure de l'inscription. Mais sur l'une des faces latérales a été ajouté un texte très original, qui justement nous apprend que le personnage en question mourut lors de son service en Dacie et que son corps fut transporté en Asie par une escouade de légionnaires sous le commandement d'un centurion dûment nommé. En sorte que, conformément à l'ordre de l'empereur Adrien, on est donc là après 117, de somptueuses funérailles furent célébrées dans la cité devant un grand concours de peuple aux frais du fisc impérial. Dans l'évocation de ces obsèques en quelque sorte nationales, Marguerite Yourcenar ne s'est donc trompée que sur l'indication du lieu, non pas Rome, mais bien évidemment Pergame. D'autre part, elle n'a pas voulu ou pu tenir compte du fait que Julius Quadratus Bassus fut nécessairement gouverneur de Syrie jusqu'en 116-117. La date de son entrée en fonction a fait certes l'objet d'une discussion entre spécialistes de la prosopographie impériale en relation avec la question de savoir si c'est ce même personnage qui se dissimule dans une inscription latine du Liban à Baalbek Héliopolis en l'honneur d'un légat de Syrie sous Trajan. Mais au vu d'un document d'Apamée de Syrie, publié plus récemment, 1976, il paraît désormais assuré que Quadratus entama son mandat en 114 déjà. Autrement dit, c'est ce sénateur, expérimenté s'il en est, que Trajan dut placer à Antioche dès le début des opérations en Orient. Force est alors d'admettre qu'avant d'être nommé lui-même à ce poste stratégique, Adrien ne fut qu'un légat sans province, demeurant aux côtés de Trajan durant 2 voire 3 années de campagne, peut-être comme chef de l'état-major général. Il convient donc de réajuster l'image donnée des débuts de la guerre dans Mémoire d'Adrien. Celui-ci y affiche en effet sa satisfaction de pouvoir rester à Antioche au printemps 114, tandis que s'ébranle l'immense armée impériale. Je vis s'éloigner avec elle la vaste cohue des grands fonctionnaires, des ambitieux et des inutiles. Or, donc page 83, or, Adrien devait nécessairement figurer au nombre des hauts personnages, pas forcément inutiles, qui formaient la garde rapprochée du nouvel Alexandre. Il ne s'agit pas ici de faire le récit des campagnes de Trajan. Tout au plus rappellera-t-on que celle de 114 eut pour objet la remise à l'ordre du nouveau souverain de l'Arménie, Parthe, dont le royaume fut purement et simplement annexé à l'Arménie romaine, déjà romaine, la petite Arménie. En 115, Trajan s'attaquait à l'Empire Parthe lui-même et mettait sous le contrôle de Rome la région située entre l'Euphrate et le Tigre, aussitôt transformée en province de Mésopotamie. En 116, après avoir hiverné à Antioche, où il réchappa de peu à un terrible séisme, l'empereur poussait vers le sud-est, s'emparait de la capitale des Parthes, Ctésiphon, et atteignait le golfe Persique. Ainsi fut créée de rechef la province d'Assyrie. C'est alors que, voyant appareiller un navire de commerce en direction de l'Inde, il aurait, selon Dion Cassius, livre 68-28, pris la mesure de l'immensité de ce qui lui restait à parcourir pour aller jusqu'au bout du rêve d'Alexandre. De fait, l'année 116 vit les Parthes réagir. L'armée romaine parvint à maintenir une partie des conquêtes mésopotamiennes, mais échoua au terme d'un siège très coûteux en hommes et en matériel à prendre la place forte de Hatra. Il fallut amorcer la retraite, d'autant plus que la santé de l'empereur s'était altérée et qu'arrivaient de mauvaises nouvelles en provenance de la Cyrénaïque et de l'Égypte, où les communautés juives s'étaient révoltées contre l'élément grec et romain des principales cités. Est-ce alors, au retour à Antioche, dans l'hiver 116-117, qu'Adrien fut désigné comme gouverneur de Syrie pour remplacer Quadratus Bassus, dépêché de toute urgence en Dacie? Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'Adrien occupait bel et bien ce poste, et la chose est capitale, quand Trajan, désormais malade, dut se résigner à quitter le théâtre des opérations pour essayer de regagner Rome au plus tôt. Mais on sait que ce voyage ne le mena pas très loin. Sur la côte cilicienne, déjà, l'empereur dut faire escale à Selinonte, la future Trajanopolis, au début du mois d'août, et c'est là qu'il mourut à la date du 11 août, si l'on en croit la chronique officielle, tandis que l'adoption d'Adrien par le prince moribond aurait eu lieu la veille ou l'avant-veille seulement. D'où aussi, bien sûr, les rumeurs qui d'emblée circulèrent sur les derniers moments de Trajan. Dion Cassius avait là-dessus, dit-il, des informations qu'il tenait de son propre père. Nos sources sont unanimes sur le fait qu'Adrien, avant ce moment-là, n'avait pas été formellement adoptée par Trajan. Le fut-il alors in extremis grâce à la présence d'esprit de l'impératrice Plotine, ou même seulement post-mortem par les soins de cette dernière? Ce lourd secret d'État, Plotine le garda sans doute pour elle, ne le confiant pas même à son protégé. En tout cas, dans les mémoires, c'est un Adrien perplexe qui essaie de relater au mieux ses péripéties dont il ne fut pas le témoin direct. Ce qui importait pour lui, c'est que la version de l'adoption ne put être contestée par personne, pas même son beau-frère Servianus ou le jurisconsulte Neratius Priscus ou d'autres sénateurs encore auxquels Trajan semble avoir fait miroiter sa succession. Dès le 12 août, disparut aussi le témoin aisément manipulable qu'aurait pu être Marcus Ulpius Faidimus, chambellan du prince jusqu'à ses derniers jours. L'épitaphe romaine de cet affranchi impérial nous apprend qu'il était mort à 28 ans, ce qui est un peu jeune, mais elle ne dit rien des causes de son décès prématuré à Célinonte de Cilicie, c'est dans le texte. Quant à Adrien, désormais reconnu comme fils du divin Trajan et petit-fils du divin Nerva, pour reprendre les termes de sa titulature officielle, il avait pour lui non seulement cette légitimité juridique, mais aussi sa qualité de consul désigné pour l'année à venir, et surtout de solides atouts militaires, dont il ne faudrait surtout pas méconnaître le caractère décisif, puisqu'il disposait de la grande armée d'Orient, Exercitus Suriacus, réunie par son prédécesseur. D'emblée, selon toute apparence, il fut acclamé du titre d'impérator, autocrator en grec, par les légions. Pour ménager la susceptibilité du Sénat, qui demeurait malgré tout l'autorité d'investiture, il prit soin d'adresser au patresse, nous dit l'histoire Auguste, une lettre où il s'excusait d'avoir dû, sous la pression des événements, se passer de leur approbation formelle, comme on regrette de ne pas avoir conservé ce morceau de bravoure. De fait, l'Empire pouvait moins que jamais se passer d'avoir un maître. Le tableau que l'histoire Auguste donne de la situation à l'avènement d'Adrien est peut-être poussé au noir, mais il paraît reposer sur le témoignage assez fiable de l'historien Marius Maximus, une des sources principales de l'histoire Auguste. On lit que les nations qui venaient d'être soumises par Trajan faisaient défection, les Maures multipliaient les attaques, les Sarmates engageaient la guerre, les Bretons ne pouvaient être maintenus sous la domination romaine, l'Égypte était en proie aux séditions, la Libye enfin et la Palestine affichaient un esprit de rébellion. Adrien comprit que le plus urgent était de mettre fin à l'état de guerre avec les Parthes, non par la conclusion d'un traité en bonne et due forme, mais par le renoncement avec effet immédiat aux trois nouvelles provinces d'Arménie, d'Assyrie et de Mésopotamie, ramenant ainsi sur l'Euphrate la frontière de l'Empire. Ce qui l'inspirait, c'était une vision pragmatique, peut-être déjà un idéal de paix, mais en tout cas pas la jalousie à l'égard de son prédécesseur, comme le prétendront au IVe siècle Festus et Eutrope dans leurs bréviaires respectifs des conquêtes romaines. Si la question des Sarmates et celle des Bretons insulaires, naturellement, pouvaient éventuellement attendre quelques mois, Adrien s'empressa en revanche de dénouer, depuis sa résidence d'Antioche, l'écheveau de problèmes que posait la situation en Palestine, Égypte et Cyrénaïque, car la destitution du gouverneur de Judée, Lucius Quietus, tenu pour responsable d'exactions et de massacres dans sa province, pouvait apaiser déjà les esprits. Au surplus, Adrien n'avait aucune sympathie pour ce chef Maure, à qui Trajan avait eu trop longtemps laissé la bride sur le cou. Il n'est pas sûr que le nouvel empereur ait eu besoin de faire un aller-retour à Alexandrie à l'automne 117, comme l'a admis avec d'autres, il faut le dire, Marguerite Yourcenar. Mais la narration de cet épisode lui a permis de prêter à Adrien d'intéressantes réflexions qui n'épargnent ni les Grecs ni les Juifs sur l'incapacité de ces deux communautés à cohabiter dans le respect de leurs différences. En tout cas, il est certain qu'Adrien ne poussa pas plus loin vers l'ouest. Un voyage à Cyrène lui eût coûté trop de temps. Il dut se contenter, là, de faire rétablir l'ordre par le préfet de la flotte de Misène, l'ancien centurion Quintus Marcius Turbo, depuis 10 ans au moins, l'un de ses plus fidèles soutiens. Mais on verra qu'une fois de retour à Rome, il se soucia de procéder à la reconstruction et d'abord au repeuplement de la Cyrénaïque, comme l'attestent des inscriptions qui laissent peu de doute sur l'étendue du désastre ayant frappé alors ce pays. Dès l'automne 117, Adrien amorça son retour vers l'Italie. Avant de quitter Antioche, il laissa la légation de Syrie, dont il mesurait, ô combien, toute l'importance en cas de vacance du pouvoir impérial, à un sénateur de grande confiance, Lucius Catilius Severus, jusque-là gouverneur depuis 115 dans l'éphémère province des deux Arménies et futur préfet de la ville, dont les spécialistes ont su retrouver la trace dans une inscription d'Antium. Le choix de l'empereur en faveur de l'itinéraire terrestre fut très certainement déterminé par la nécessité de pacifier en chemin une autre région de l'Empire, à savoir la Mésie, après que le gouverneur de Dacie, Julius Quadratus Bassus, on l'a vu, eut payé de sa vie la défense des nouvelles frontières danubiennes. Adrien décida donc de prendre la route qui, à travers l'Asie mineure, permettait de gagner les détroits, puis la Thrace. C'est pourquoi l'histoire Auguste dit qu'il vint à Rome par l'Illyricum, ce terme légèrement anachronique, désignant le vaste ensemble des provinces danubiennes. Dans ce qui nous reste de l'histoire du règne chez Dion Cassius, il n'y a pas un mot sur ce long voyage. Si l'on peut en reconstituer un peu plus précisément l'itinéraire et la chronologie, c'est aux inscriptions qu'on le doit.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours de Denis Knopfler qui nous parle de ce que nous savons aujourd'hui de l'empereur Adrien. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.